Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Alors, on est là en rassemblement soutien à Bure. La maison de résistance qui s'est fait perquisitionner ce matin très tôt à 6h20. Il y a eu du matériel de saisie, notamment des ordinateurs, des tracts, des objets personnels aussi. Il y a d'autres endroits à Bure qui ont été perquisitionnés, la gare notamment, et des maisons personnelles également. Ça, c'est une étape dans le processus de répression qui a lieu à Bure depuis des années. Et ça va de plus en plus fort, et apparemment c'est pas le dernier. Il y a eu un appel national, hein. Mais on aimerait à Toulouse que l'info circule aussi un peu, parce que c'est quand même très important, voilà, ce qui se passe là-bas.
Alors, comment tu connais Bure ?
J'y suis allée en février parce que je suivais justement les appels qu'il pouvait y avoir, parce que bon, il y a quand même une info qui est relayée un peu à Toulouse, hein, sur Yatta ou choses comme ça. Et donc on était allé en février, le 12 février, il y avait une manifestation au laboratoire. On a eu l'occasion de rencontrer les gens, de voir comment ça se passait, d'aller dans le bois Le Jus qui est occupé actuellement par un grand nombre de personnes. Puis on y est retourné cet été. Il y avait les burlesques, festival de rencontres avec des projections, des concerts, des débats, Et suivi d'une manifestation qui a très mal tourné. Donc là, c'est pareil, on peut avoir les comptes rendus hein, sur Internet, mais avec un niveau de répression aussi énorme, direct, les lacrymos, le canon à eau, y a eu des gens mutilés, une personne qui a perdu des orteils. Voilà, et puis ça, c'est ce qu'on voit, c'est spectaculaire, mais sinon il y a aussi la répression au quotidien là-bas, c'est du harcèlement tous les jours. Il y a les flics qui passent en permanence, les hélicos, de jour comme de nuit, des gens qui se font, contrôler, voilà, une pression de fou. Et en fait, comme c'est un endroit reculé, la Meuse, qui est pas trop sous le feu des projecteurs, c'est libre cours à la répression, à la violence policière. Donc, nous, on a envie de faire le relais un peu de ça ici, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai vécu la rencontre de gens qui sont concernés par plein de questions de comment on s'organise tous ensemble. Pour vivre tous décemment et tous sans écraser des gens. Enfin, parce que le nucléaire, c'est ça aussi, c'est comment dominer, en fait. Et c'est la question de la domination en général. Bon, et en tout cas, c'est des gens qui appliquent ça aussi au quotidien. Les gens de Bure, même si ils n'ont pas de porte-parole et je peux pas parler à la place d'autres personnes, mais quand même, ce que j'observe, c'est qu'ils appliquent au quotidien, avec la difficulté que ça peut avoir, mais des convictions, enfin des principes qui feraient qu'on pourrait être dans un monde meilleur, c'est-à-dire d'éviter au maximum la domination, d'être dans la coopération, dans prendre en compte les besoins de chacun, les envies de chacun, enfin voilà, un travail en commun. Ce qui est à l'opposé de ce qui se passe avec ce projet d'enfouissement, quoi. Donc j'aime aussi cet ancrage dans le quotidien, dans la réalité. Enfin, c'est con, mais par exemple, c'est un détail technique, mais là-bas, il y a des cantines véganes à prix libre. On mange comme des rois et on peut aussi manger gratuitement, enfin selon les moyens qu'on a, quoi. Enfin voilà, ça me plaît énormément, ouais, au-delà de la lutte. C'est comment on inscrit dans le quotidien les choses pour lesquelles on se bat, quoi, en fait. Voilà.
Comme une cohérence entre le fond de la lutte et la forme de la lutte.
Oui, voilà. Parce que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui se concentrent sur la théorie ou sur la lutte ponctuelle. Mais, et c'est complémentaire qu'il y ait aussi des gens qui investissent le quotidien aussi avec ces idées-là, quoi.
Je suis particulièrement sensibilisé sur Bure parce que je suis originaire de la région. J'habitais à 15 km étant gamin, c'est dans la Meuse, à Audelincourt, et j'ai vu arriver dans les années 80 l'idée de l'installation du laboratoire. Il faut savoir que Bure, c'est la Meuse, c'est une région qui, au niveau économique et démographique, est complètement déshéritée. Il faut savoir que c'était Gérard Longuet qui était député à l'époque, on connaît le parcours de Gérard Longuet, et qui est encore sénateur de la Lorraine, et donc on a profité de cet état catastrophique pour mettre ce putain de laboratoire, et c'est Landes à Landes, je veux dire, on a subventionné les populations, on a acheté les élus. Il faut savoir que Bure, 85 habitants, a une salle polyvalente. Donc là, actuellement, ce qui se passe, c'est un coup d'État, on va dire. Il y a une répression qui se met en place. Le dernier rassemblement qui a lieu au 15 août, où il y avait 300-500 manifestants, et savoir que 1200 militaires étaient réquisitionnés pour justement aller au clash, pour que ça se radicalise et faire peur aux populations locales, qui voudraient bien aussi se mobiliser, mais s'ils voient trop de radicalité, ça peut casser l'élan de résistance. Donc c'est un projet complètement fou. Il faut dire stop à Bure, mais il faut dire plus largement stop au nucléaire. C'est une vraie question, c'est un débat national et même international qu'il faut mettre sur la table. Si on veut pas de déchets, il faut déjà arrêter tout le nucléaire en France et qu'on a d'autres moyens à produire de l'énergie. Et ces déchets, ben pour l'instant, qu'est-ce qu'on en fait ? On les stocke à côté des lieux de production. Parce que là, actuellement, on va construire des galeries de 500 km de galeries. On est en train d'exproprier des fermes, des villages. On assassine une région. C'est un magnifique petit endroit. On y retourne chaque année et c'est catastrophique dans l'état où sont les populations. Même des gens qui, au départ, étaient indifférents commencent à prendre conscience de la situation dans laquelle se passe avec cette répression qui se passe actuellement dans cette région, quoi. Voilà ce que je disais. Là, je suis venu rapidement parce que j'ai appris l'appel il y a 2 heures. Mais il faut vraiment que partout en France, parce que un aéroport, comme je dis toujours, un aéroport, un barrage, un tunnel, c'est réversible. On peut toujours les démonter. Par contre, enfuir des déchets pour plus de 1000 siècles, c'est-à-dire 100 000 ans, je veux dire, sans savoir qu'il y a de la réversibilité, c'est le danger le plus immonde qu'il puisse y avoir d'enfuir des déchets radioactifs. Pour enfuir les déchets de notre production, je veux dire, il faut vraiment que tout le monde se sensibilise sur Bure. Alors, il n'y a pas trop d'écho actuellement sur Bure. Il y a un silence, une omerta d'État. Il faut vraiment casser ce mur du silence pour mobiliser et qu'à Toulouse, on soit des milliers aussi à manifester.
Moi, j'ai rien à ajouter. Hein. Si on n'a jamais demandé l'avis aux populations, on a demandé l'avis aux maires. Comme le disait le monsieur précédemment, les maires ont été achetés. Mais les personnes, il n'y a pas eu de débat public, on ne leur a pas demandé leur avis. Et non pas leur demander l'avis aux gens qui habitent là-bas, mais à l'ensemble de la population française. Donc ça me paraît quelque chose d'insupportable.
Les maires achetés, c'est-à-dire ?
Eh ben, on leur promet une belle salle polyvalente, on leur promet des belles routes, des chicanes à n'en plus finir alors qu'il n'y a personne qui passe. Enfin voilà, je veux dire, des villes, ce sont des villages qui deviennent des villes où il n'y a absolument aucune activité, où il n'y a que des vieux qui se meurent, quoi, en fait. Donc c'est complètement aberrant comme politique de donner aux gens d'argent alors qu'il aurait mieux fallu donner de l'emploi, créer des choses pour que les gens habitent là-bas. Mais là-bas, il n'y a plus personne, quoi. C'est le désert total.
Alors, à Bure, jusqu'ici, ils avaient prévu de mettre du bituminé sans se poser de questions. Depuis que la société civile, donc les opposants, ont dit « le bitumineux présente de gros dangers », ils ont dit « on va réfléchir et on ne déposera le cahier des charges définitif que dans un an ». C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à le déposer. Là, mais non. Ils ont reculé. Ils ont dit « non, on n'est pas prêts finalement ». Pour vous montrer le sérieux de ces gens. Ils ont déjà dépensé des millions d'euros en études. Ils étaient prêts à démarrer. Et puis là, on leur met sous le nez qu'ils ne sont pas corrects. Et ils retardent. Mais il y a pire que ça. Il y a beaucoup plus grave. Quand vous mettez même dans le verre la vitrification des matériaux radioactifs, radioactif, ça veut dire « j'émets des particules » qui vont aller frapper d'autres atomes à côté. Et vous le savez certainement, ces particules qui vont frapper d'autres atomes modifient ces atomes et en changent la nature. Il peut apparaître des atomes qui n'existaient pas auparavant. C'est vraiment de la magie. Par exemple, il n'y avait pas avant certains matériaux qui peuvent être inflammables. Ils existent tout d'un coup. On part de l'uranium, il se casse et on peut vous fabriquer des atomes très différents. Le résultat, c'est qu'au bout d'un temps relativement court par rapport à ce qui est annoncé, on se retrouve avec, dans ces déchets, des matières qui en transforment complètement le comportement. Et là, maintenant, on commence à annoncer le fait qu'il faudra des émissaires, c'est-à-dire des cheminées, qui vont évacuer ce qu'ils appellent pudiquement de l'hydrogène. L'hydrogène, il faut l'évacuer parce que vous le savez, l'hydrogène, il n'en faut pas beaucoup pour que ça fasse boum. Sauf qu'ils annoncent l'hydrogène. Sauf que cet hydrogène étant généré au sein de matériaux radioactifs, on sait très bien qu'il ne va pas être hydrogène, il va être tritium, par exemple. Et le tritium, c'est pas bon pour la santé. Mais alors pas bon du tout, parce que c'est un hydrogène très actif. Pour vous donner une idée, l'hydrogène, il a un amour fou pour l'oxygène. Tellement fou qu'il en veut deux oxygènes. Et ça s'appelle de l'eau. Et l'eau, c'est la base de la vie. Ça veut dire que cette eau tritiée, c'est une eau un peu différente, elle est un peu plus lourde. C'est pas l'eau lourde, c'est de l'eau très lourde. Parce que l'eau lourde, c'est... Ah, ça, c'est pas bon, une rage de dents.
J'ai pas pris mes médicaments, je vais les
acheter. Eh bien, allez-y, mais... Ce que c'était, et vous avez le papier. Bon, allez vous soigner si vous avez mal aux dents.
Non, je ne savais pas. Non, je voyais au Solidaire avant une piscine olympique. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?
C'est ça qui l'a interrogé, là.
Et donc, je suis venu me renseigner pour
c'est
voir
bien,
ce qu'il en était.
C'est bien, ça vous a interpellé, c'est bien. Et nous, on essaye d'interpeller. Et surtout, la société civile, elle essaye vraiment de faire de la pédagogie parce que malheureusement, elle est confisquée par les autorités qui veulent gérer ça sans en référer à la société civile. C'est vraiment le problème. En France en particulier, mais il n'y a pas que la France, le nucléaire est confisqué aux citoyens depuis le début. Et le résultat...
Moi aussi j'ai une petite question, je vais prendre 5 minutes.
C'est, j'espère que vos dents vont tenir.
Avec Hulot ministre, oui. Ah là là. Maintenant, alors, c'est mieux pour vous, c'est moins bien, c'est pareil. Et sur l'enfouissement de déchets, est-ce qu'il s'est positionné ?
On a des photographies où il dit « Bure, non ». Il a été pris en photo, c'est quelqu'un qui a supporté, qui a dit le non quand il n'était pas au gouvernement. Maintenant, il est au gouvernement. Et effectivement, vous me demandiez ce que j'en pensais. Moi, je crois que fondamentalement, il peut vouloir faire des choses. Va-t-on les lui laisser faire ? Je suis dans l'expectative.
D'accord, donc vous êtes dans l'attente ?
Oui, oui. Franchement.
C'était ma réponse.
J'espère que... Sauvez-vous.
Okay. Merci beaucoup.
On continue, vous avez un petit papier, il y a des liens dessus, vous pouvez vous aller vous promener sur Internet et vous verrez qu'il y a des citoyens qui tentent de s'informer et d'informer. Bonsoir.
Moi, ce qui m'a sensibilisé, c'est au-delà du débat nucléaire, qui est un débat difficile pour les néophytes, c'est le rapport de force qu'il y a entre les habitants, les citoyens et les institutions publiques et privées. C'est un débat assez compliqué, le nucléaire, tout le monde ne s'y retrouve pas. Il y a des gens qui nous disent, qui disent aux opposants qu'ils ne proposent pas de solution derrière. Et donc du coup, il y a toujours un peu ce discours d'être raisonnable et de, il faut quand même, on n'a pas d'autre solution que d'enfouir... les déchets nucléaires. Quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte qu'en fait, jusqu'à 1977, on déposait les déchets nucléaires juste à côté des centrales. Et en 77, on s'est dit, oulala, ça commence à être dangereux, il va falloir qu'on trouve une solution. Ils pensaient prendre quelques années à faire ça. En fait, ça traîne de la patte. Ils ne mettent pas les financements pour la recherche qu'il faut pour trouver une solution. Et d'ailleurs, ils mettent beaucoup de financement dans la recherche sur cette solution d'enfouissement. Donc c'est un petit peu biaisé. Et en plus, bah, parallèlement, on continue de produire alors qu'on sait qu'on n'a toujours pas trouvé de solution. On a inventé plein de choses de plus en plus énergivores. Hein. Du coup, dire que c'est un compromis et que c'est la seule solution raisonnable, moi je trouve que c'est déjà un peu hypocrite. Et secondo, de toute manière, cette décision-là, elle nous appartient pas du tout, puisque de toute manière, ce qui se passe à Bure depuis... depuis le milieu des années 90, quand ils ont choisi ce département-là, de la Meuse, c'est qu'en fait, ils consultent pas du tout la population. Ils arrosent les représentants municipaux et préfectoraux. Ils passent des décisions toujours sans la population. Et pourtant, la population manifeste. On fait des festivals tous les ans. Et personne n'en entend parler. Donc du coup, là, ce qui m'a poussé à y aller et ce qui me pousse du coup à en faire parler maintenant, c'est que du coup, il faut qu'il y ait un peu une émulsion et qu'on puisse en entendre parler un peu partout en France, parce que même dans les médias mainstream, pour le moment, c'est vraiment très léger. Voilà. Je suis venu en février dernier et en en août dernier. Et oui, j'ai été témoin de violence de la part des forces policières. J'ai vu quelqu'un perdre son pied devant moi, quelque chose d'assez terrible quand on est dans une manifestation. Et ce qui est assez révoltant, en fait, c'est de revenir chez soi, de voir ce qu'il y a comme média et de voir qu'en fait, ce mouvement est juste caricaturé comme un mouvement de black blocs très offensif. Par exemple, en février, il y a eu une manifestation qui s'est dirigée vers le laboratoire de l'ANDRA, où effectivement, ils étaient assez organisés, ces militants, et où ils ont pu commencer à démanteler les grillages et à mettre le feu. Ce qui est quelque chose qui, visuellement, et graphiquement, peut faire peur aux gens. Mais en fait, la vraie violence ne vient pas de ce côté-là, en fait. Souvent, c'est vu comme une radicalité. Ce dont j'ai été témoin, c'était d'une famille qui nous avait hébergés gracieusement et qui, en fait, était dans la lutte depuis le début des années 90. Vraiment une famille, tout ce qu'il y avait de plus lambda, qui est une père et une mère de deux enfants et qui avait, pendant 15 ans, fait les manifestations pacifiques. Je considère qu'on soit violent maintenant, mais quand ils voyaient du coup ces militants un peu plus chevronnés arracher les grillages et foutre le feu pour vraiment montrer qu'on est là et qu'on n'est pas d'accord, mais ils étaient d'accord avec. Et donc du coup je trouvais parce que en fait ils avaient perdu tout espoir eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas du tout cette expérience du militantisme. Et pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué par rapport aux moyens de lutte et comment ils sont représentés dans les médias.
Il reste en prison dans le cœur.